Rina Nissim est une naturopathe suisse renommée. C'est une figure emblématique du mouvement féministe pour la santé des femmes. Co-fondatrice du dispensaire des femmes à Genève, elle a fait connaître l'usage des plantes spécifiques aux femmes et aux problèmes gynécologiques. Elle prône surtout la connaissance, l'autonomie et la réappropriation de son corps, avec notamment des pratiques de self-help, dont l'auto-examen est le pilier central. Pratique révolutionnaire qui a fait le tour du monde et qui a soutenu les luttes pour l'accès à l'avortement, le droit à la contraception, et qui facilite encore aujourd'hui une nouvelle relation au corps, à la maladie et au processus de guérison. C'est à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Une sorcière des temps modernes, qu'elle a donné une conférence à Louvain-la-Neuve, organisée par le CEFA ASBL, le 9 mars 2016.
Alors, je voulais vous parler ce soir du mouvement Self-Help, du mouvement Femmes et Santé, et donc de tout ce mouvement de réappropriation du corps. Et si je dis ça, ça veut dire que quelque part, on a perdu quelque chose, puisqu'il s'agirait de le reconquérir. Donc ça m'oblige à faire un petit peu d'histoire, si vous permettez, et de revenir un peu à l'histoire des sorcières. Parce que c'est très important de savoir d'où nous venons et d'où nous vient ces tabous, ces inhibitions, d'où ça nous vient. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'histoire si on veut être capable de la transformer. Donc j'aimerais vous amener carrément à la fin du Moyen-Âge, dans la transition entre le Moyen-Âge et le pré-capitalisme. S'il y en a parmi vous qui sont férus d'histoire, je vous recommande de lire « Caliban et la sorcière » de Silvia Federici. C'est une Italienne, mais qui vit aux États-Unis. Son ouvrage a été publié tout d'abord en langue anglaise et il a été réédité en langue anglaise et traduit en français l'année passée. « Caliban et la sorcière » Silvia, avec des « i », Federici, comme ça se prononce. L'autre ouvrage très important, « Les infirmières, les sages-femmes et les sorcières ». C'est un ouvrage, « Nurses, Midwives and Witches », c'est « Les infirmières, les sages-femmes et les sorcières ». Celui-là date des années 80. Et les auteurs étaient Barbara Ehrenreich et Reid English. La première publication, c'était « Le remue-ménage ». Et il y en a une édition maintenant française également, en France, je veux dire, pas seulement de langue française. Et pour situer un petit peu ce petit bout d'histoire, mais qui est quand même terriblement important, c'est donc de situer cette période de la fin du Moyen-Âge. Il y avait à cette époque des terres qui étaient des terres communes. Et dans le pré-capitalisme, il y a eu une phase où les nantis ont voulu s'approprier ces terres pour les exploiter, et pour en tirer plus de revenus. Et donc, ils ont exproprié un certain nombre de paysans et de petites gens qui travaillaient sur ces terres communes. Ça a jeté un certain nombre de gens dans la misère, et donc dans la famine également. Et il y a eu des révoltes populaires à ce moment-là. Évidemment, il y a des tensions sociales, n'est-ce pas ? Donc, il y avait des révoltes populaires, il y avait des émeutes de la faim. Et il s'était rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de femmes leaders dans ces mouvements. Donc un des moyens de casser ces luttes sociales à cette époque, c'était de criminaliser ces femmes et de dire que c'était des sorcières. L'autre chose qui était en train de se passer en parallèle, c'est qu'en fait, il y avait la nouvelle médecine qui était en train de naître et qui n'était pas fortiche-fortiche. Donc, ils en étaient à l'époque des saignées, et puis ils avaient des toutes sortes de poudres de perlimpinpin qui n'étaient pas d'une efficacité redoutable. Et donc, ces femmes qui avaient un savoir, qui connaissaient les plantes médicinales, qui étaient capables de les employer, qui étaient capables de traiter quelques femmes autour d'elles, des phytothérapeutes, si vous voulez, leur faisaient de l'ombre. Sont une des façons de grandir pour eux, c'était de se débarrasser de ces femmes. Donc, comment ils s'y prenaient? Ils s'étaient alliés avec l'Église, ils leur faisaient des procès en sorcellerie, on leur faisait avouer sous la torture qu'elles avaient fait l'amour avec le diable, ou Dieu sait quelle bêtise, et ça justifiait de les brûler. Voilà. Et c'est intéressant, le point de vue historique, si vous voulez, c'est de se rendre compte que plus il y avait d'émeutes, donc les périodes où il y a eu le plus d'émeutes, c'est là qu'il y a eu le plus de procès en sorcellerie, comme par hasard. Donc c'est là qu'on voit bien le lien qu'il y avait avec ces mouvements sociaux qu'il y avait à cette époque. Et dans toute cette période, on a en quelque sorte complètement cassé notre relation à notre corps. Parce qu'il y avait eu des famines, il y avait eu des maladies graves, et donc il y avait une baisse de la natalité. Et puis une des choses qu'ils voulaient aussi contrôler, évidemment, c'était la natalité. Donc il fallait criminaliser l'avortement, criminaliser tout ce qu'on pouvait savoir sur la contraception, déjà à l'époque, de sorte d'avoir plus, plus d'enfants, plus de futurs soldats et plus de futurs bras à exploiter. Et à l'époque, tous les jours n'étaient pas des jours propices pour travailler. Il y avait des jours qui convenaient bien pour travailler. Alors les gens disaient, oui, aujourd'hui c'est un bon jour pour travailler. Non, aujourd'hui c'est pas un bon jour pour travailler. Et les nantis, bien sûr, ils voulaient exploiter les gens tous les jours. Ça n'allait pas du tout, cette histoire. Comme on disait, n'est-ce pas, il y a des jours qui conviennent bien pour se marier, des jours qui ne conviennent pas bien pour se marier. Vous voyez, toutes ces idées, ça ne leur convenait pas du tout. Donc il fallait casser complètement cette relation que les gens avaient avec le corps, avec la terre, avec ce qu'eux, ils concevaient comme étant le travail. Et ça a été, bien sûr, cassé par une répression extrêmement sévère. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous vous rendiez compte que une bonne partie des tabous que nous avons encore aujourd'hui dans notre relation à notre propre corps date encore de cette période de répression, parce qu'elle a quand même duré sur plusieurs siècles. Donc il faut bien imaginer que c'est rentré assez profond en nous, et c'est peut-être les deux plus grands crimes de l'humanité qu'il y a eu à cette époque. L'un, c'était l'esclavage, et l'autre, c'était les sorcières. Et c'est la même époque, si vous voulez. Et les nantis sont en train de se dire que voilà, il faut faire des affaires, et donc ça va être facile, on va asservir ces gens, et on va les faire bosser pour nous, quoi. Et ça a traversé, les deux ont traversé plusieurs siècles. Et quand bien même aujourd'hui, il y a soi-disant plus d'esclavage, et quand bien même aujourd'hui, il n'y a plus des procès en sorcellerie, on est encore tous profondément empreints de cette répression. On a complètement cassé notre relation au corps, on a cassé notre relation à la terre, au travail. Tant et si bien qu'il y a des entreprises aux États-Unis où les gens sont libres de choisir leurs propres vacances. Hein. Au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, un certain nombre de jours fixes par année pour les vacances, ils sont censés décider eux-mêmes combien de jours de vacances ils vont prendre. Ben, figurez-vous que dans ces entreprises, les employés prennent moins de vacances que dans les entreprises où il y a un temps de vacances fixe. Donc on a réussi, si vous voulez, à nous inculquer une forme d'autocensure. Et c'est pour faire le parallèle donc, avec la relation par rapport au corps. Donc, dans les années 60, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'ambiance qui régnait. La contraception était balbutiante. On avait des préservatifs qui n'étaient pas d'une qualité formidable. L'avortement était illégal dans la plupart de nos pays. Les femmes faisaient des manœuvres abortives quand elles avaient des grossesses non désirées. Il y avait une mortalité très importante liée à ces manœuvres abortives. La médecine était essentiellement contrôlée par des hommes qui ont toujours su mieux que nous qu'est-ce qui était bon pour nous ou pas bon pour nous, évidemment. Et il y a eu de nouveau un mouvement social qui est né. Donc souvent, ça vient par les États-Unis, ces choses-là. C'est assez intéressant. Le mouvement pour les droits civiques, la guerre du Vietnam. Finalement, mai 68, donc ici. Et suite à mai 68, si vous voulez, le mouvement de libération des femmes. C'était quand même un moment assez palpitant où beaucoup de femmes quittaient des organisations d'extrême gauche parce qu'elles se rendaient compte qu'elles se retrouvaient à faire les sandwichs pour ces messieurs et à leur faire le café, et que dans les débats, leur point de vue n'était jamais relevé, sauf si un homme répétait le même point de vue. Alors forcément, ce point de vue devenait extrêmement intéressant, parce qu'un homme l'avait répété. Et donc, elles quittaient ces organisations, et elles entraient dans le mouvement de libération des femmes, dans tous nos pays, qui était quelque chose d'extrêmement libre, si vous voulez. On avait des grandes assemblées, des petits sous-groupes secrets, mais il y avait une ambiance de liberté immense. Je vous rappelle quand même les slogans de l'époque, hein, « Il est interdit d'interdire », hein. « Le personnel est politique », Donc on découvrait que si on se met à plusieurs, on peut peut-être changer notre condition, on peut peut-être vraiment renverser des montagnes. Et évidemment, ce mouvement s'est intéressé beaucoup à la relation au corps pour conquérir le droit à l'avortement, l'accès à la contraception, qui étaient quand même deux revendications, si vous voulez, qui étaient fondamentales. À ce moment-là, arrivent des États-Unis deux femmes qui venaient de Los Angeles, qui venaient d'une Feminist Women's Health Center, qui existe toujours aujourd'hui. Elles arrivent, elles font une tournée en Europe. Elles sont peut-être même passées en Belgique, je ne sais pas s'il y a certaines d'entre vous qui s'en souviennent. Si c'est le cas, on le reprendra tout à l'heure dans le débat, si vous voulez bien. En tout cas, à Genève, elles arrivent, on loue comme ça une salle, il y avait à peu près le monde qu'il y a ici. Et puis elles font une démonstration d'auto-examen. Alors elles prennent cette table, elles la tournent, il y en a une qui se déshabille, elle se met dessus, elle met son spéculum, avec mon spéculum je suis forte, avec une lampe et un miroir, voilà, elle regarde son col. Genève, c'est une ville calviniste, hein, je ne vous fais pas de dessin. Hein. La mâchoire descend de 2 cm. Glonk, glonk. Puis elle nous explique tout ça, voilà, que c'est quelque chose de formidable à faire en groupe, que c'est un moyen d'apprendre à mieux se connaître, voilà, qu'on peut regarder déjà comment on est faite, comment sont nos seins, comment sont nos vulves, etc., etc. Puis si on fait ça en petit groupe, on peut complètement changer notre relation au corps, revoir complètement non seulement notre relation au corps, mais bien sûr aussi notre relation aux maladies, au processus de guérison, aux relations d'oppression, hein, aux relations dominant-dominées. C'est vraiment quelque chose de sensationnel. Et elle nous invite le lendemain à un atelier pour celles qui sont intéressées. On se retrouve le lendemain en un plus petit groupe et elle recommence, elle refait la même démonstration. Alors on achète tous nos spéculums, tout ça, on rentre à la maison, mais vous savez, dans ce mouvement, il y avait quand même pas mal d'intellectuels. Donc évidemment, pour passer à l'action, ça nous a pris un certain temps, parce qu'il a fallu discuter si c'était politiquement correct ou pas, et puis ensuite, ah mais non, aujourd'hui je peux pas, j'ai mes règles. Donc ça nous a pris un certain temps, et jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième visite qui passe par là, une autre états-unienne qui venait du Colorado, et qui nous dit, non mais arrêtez les filles, vous tournez autour du pot, là, ça se voit, là, arrêtez. Hein. C'est trop bête, votre posture. Et ainsi, on a commencé. Donc, dans l'UMLF, à l'époque, il faut imaginer qu'il y avait plein de sous-groupes, si vous voulez, qui travaillaient sur des thèmes différents. Femmes et folies, bien sûr, avortement, contraception, les mères, les petites mères, on appelait ça. Il y avait toutes sortes de sous-groupes, si vous voulez. Hein. Et puis, il y avait aussi des groupes de conscience. Hein. Des groupes de conscience, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des groupes de parole ou des cercles de femmes, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc, c'était toujours les mêmes personnes qui se retrouvent régulièrement et qui parlent très ouvertement de tout, quoi, de leur sexualité, de leur relation au père, au frère, au mari, à l'employeur, etc., etc. Et c'était vraiment dans cette ambiance, si vous voulez, qu'on a découvert ensemble, et la recette marcherait toujours aujourd'hui, je vous le garantis, que ce qu'on vit, on n'est pas les seuls à le vivre, on n'est pas la seule cloche à avoir des problèmes de sexualité, et que toutes les autres sont bien sûr très heureuses et que ça tout passe très très bien pour elles. Puis moi, vraisemblablement, je suis probablement la seule cloche à pas y arriver. Et vraiment, ma vie, c'est nul. Et personne ne va jamais m'aimer, c'est pathétique. Et donc, en faisant des groupes, on arrivait à casser ces stéréotypes, si vous voulez, à se rendre compte que, voilà, les autres aussi, peut-être un peu pareil, peut-être un peu différent. Hein. Et donc, ces groupes, si vous voulez, c'était l'ambiance idéale pour faire de l'auto-examen. Donc, il y a des groupes qui sont restés des groupes d'action, et il y a des groupes qui sont restés des groupes de conscience, mais il y en a, le mien, entre autres, qui est devenu un groupe où il y avait à la fois de l'action et à la fois cette discussion en découvrant l'auto-examen. Voilà, ça se fait aussi aujourd'hui en Belgique, en France, dans d'autres pays. Il y a une renaissance, donc voilà, ce genre d'outils, on peut même les acheter sur Internet. Mais après, je ne vous invite pas à le faire toute seule dans votre coin. Je vous invite quand même à essayer de vous mettre dans un petit groupe, si vous voulez, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui se passe avec les autres. Ce n'est pas juste la découverte, moi, avec moi-même, dans mon coin. Alors, ce qui s'est passé chez nous, alors c'est différent dans chaque pays. Alors, pour la Belgique, je ne sais pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est qu'en Allemagne et en Suisse, il y a des centres de santé de femmes qui sont ouverts assez rapidement. En France, pas tellement, parce qu'elles en étaient à Lucie Rigaret, le spéculum, après la dispute entre Psyché Po et les autres, vous voyez le truc. Donc elles étaient prises dans des conflits intellectuels très compliqués. Et donc le self-help n'a pas beaucoup pris. Alors la Belgique, vous êtes peut-être entre deux, je ne sais pas, vous êtes peut-être entre les pragmatiques et les intellectuels, je ne sais pas comment, on en reprendra ça tout à l'heure dans la discussion, si vous voulez. Mais chez nous, on a lancé un centre de santé de femmes, il s'appelait le dispensaire des femmes à l'époque. C'était un centre de santé de femmes où il y avait donc des médicales et des non-médicales qui s'étaient mis ensemble pour offrir un certain nombre de prestations simples, genre les contrôles annuels, la contraception, la petite pathologie dans les choses courantes de la vie, non, les cystites, les vaginites, etc. etc. Et puis toujours avec cette proposition, bon ben voilà, un auto-examen, ça se passe sur un lit normal, il n'y a pas de blouse. Hein. Et puis, voilà, admettons, vous avez une vaginite, alors voilà, on vous explique, voilà, c'est une vaginite à tel germe, le traitement allopathique, ce serait ça, le traitement naturopathique, ce serait ça, évidemment, celui-là est plus rapide, celui-là est plus lent, avantage, inconvénient, machin, puis après, elle vous dit, ah oui, mais qu'est-ce que vous pensez qui est mieux pour moi ? Ah ben non, on recommence à zéro, alors voilà, avantage, inconvénient, machin, alors voilà, c'est des consultations d'une heure, avec toujours une médicale, une non médicale, de sorte que la femme puisse se sentir elle-même capable de prendre les choses en main. Qu'elle n'ait pas l'impression que nous, on a la science et puis qu'elle est la cruche. Voilà. Donc, on a fait ça pendant pas mal d'années. Petit à petit, on a même élargi nos prestations, si vous voulez. Au début, on faisait les vaginites et les cystites parce qu'on avait expérimenté ça dans nos petits groupes. Hein, on avait découvert qu'avec du yaourt actif, on peut inhiber la mycose, par exemple, hein, puisque c'est des champignons. Si on leur met des bacilles lactiques sur la tronche, ça les inhibe. C'est quand même intéressant. Le bicarbonate de soude, c'est un truc mais plus bête, tu meurs, mais ça marche. Hein, ça tamponne les excès d'acidité, autant dans l'alcalinité que dans l'acidité, donc ça marche super bien. On a découvert l'ail. L'ail, c'est un bactéricide, c'est un anti-amibe. Donc ça touche à peu près tout ce qu'on voudrait que ça touche, si vous voulez, dans le genre petite chose simple qu'on a à la cuisine. Voilà, vous prenez une gousse d'ail, vous la pelez avec les mains. Hein, vous ne la pelez pas avec un couteau, parce qu'il ne faut pas couper la gousse, sinon après ça brûle. Vous l'insérez dans le vagin. Je vous assure, il n'y a qu'une seule sortie, donc il n'y a pas de problème. Vous la retrouverez le soir. Ça ne se sent pas, il n'y a pas d'odeur. Hein, et ça fait un joli massacre. Donc voilà, si on s'y prend relativement tôt, toutes ces petites méthodes marchent très très bien. Après, si on s'y prend trop tard, évidemment, si l'infection est déjà très développée, qu'elle dure depuis plusieurs jours, évidemment, ça ne marchera plus. Il faudra peut-être quand même se rabattre sur une crème allopathique et ben après remettre une fleur normale. Voilà, on a expérimenté des choses comme ça dans nos groupes. Puis après, petit à petit, on a commencé à faire des choses un peu plus compliquées. On a commencé à s'occuper des fibromes, des kystes, de l'endométriose, de maladies pour lesquelles, si vous voulez, il y avait un petit peu de littérature, mais il n'y avait pas beaucoup de pratiques. Donc, c'était en fait les femmes qui étaient demandeuses. C'était extrêmement intéressant. Moi, je m'en souviens d'une qui avait une endométrite. Alors, une endométrite, c'est une infection de l'endomètre, donc le tissu qui pousse à l'intérieur de l'utérus hein, et qui desquame tous les mois sous forme de règles. Vous me suivez ? Donc, elle avait une infection comme ça. Alors, elle arrive et puis, voilà, on l'examine et dit, bon, ben voilà, c'est une endométrite, ben, c'est fâcheux. Alors, ben, nous, là, franchement, ce serait quand même antibiotique, là. Voilà, 10 jours, repos, machin. Puis elle me dit, ah non, 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 non. D'habitude, vous me disiez toujours, ah mais, avantages, inconvénients, le traitement allopathique, le traitement naturopathique, pourquoi ce coup-ci, vous ne me dites pas ? Ben, parce qu'on ne sait pas. Alors, elle dit, non, 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 mais moi, je veux faire un traitement par les plantes, donc voilà, et moi, je vais... Voilà, on ouvre la littérature, on regarde, voilà, moi je vais rester à la maison, repos strict, 3 semaines. Chaque semaine, on venait à domicile pour faire un toucher, pour vérifier que ça ne s'aggravait pas, puis qu'il n'y avait pas les trompes qui étaient prises. Et en 3 semaines, elle s'est guérie. Mais c'est quand même génial, non ? Donc, ça veut dire que le processus de guérison existe, et qu'il suffit de le caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas ? Alors, petit à petit, voilà, on a développé des traitements aussi pour des pathologies pour lesquelles on ne savait pas au début, si vous voulez. On essayait avec les femmes. Hein. Et ça a donné donc le Mama Mélis, donc le manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes, s'adresse autant à des usagères comme vous, des services de santé, qu'à des soignantes ou des soignants. Hein. C'est valable pour les deux, si vous voulez. Il y a des bouts, vous trouverez que c'est trop développé, si vous êtes usagère. Il y a des bouts, si vous êtes naturopathe, peut-être vous trouverez que c'est un peu rapide. Mais voilà, c'est un peu pour les deux publics. C'est ce qu'on a développé au sein du dispensaire des femmes. Après, si vous voulez, ce type de pratique, elle pourrait se faire dans d'autres pays aussi, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai travaillé en Amérique centrale, j'ai travaillé en Inde, on pourrait refaire ce type de pratique dans d'autres endroits. Pour autant qu'il y ait des groupes, si vous voulez, qu'on puisse partir de groupes préexistants. Par exemple, au Costa Rica, je travaillais avec un groupe qui s'appelle Sefemina, et on faisait des espèces de charlas, comme ici ce soir, dans une université. On invitait des femmes pour discuter de la contraception, de ce qui est disponible, de ce qui n'est pas disponible, avantages, inconvénients, etc. Et puis, à la fin de la soirée, on propose à celles qui le souhaitent de faire un groupe self-help, autoayuda en espagnol, et de se retrouver 3 soirs de suite pour la contraception et puis éventuellement même apprendre à utiliser des diaphragmes. Waouh! Alors, les filles, elles sont un peu gênées au début. Puis après, il y en a une qui dit « Ah, mais ouais, moi, je viens. » Et puis, je me ferai une mise en pied des poils pubiens. Éclat de rire général, elles s'inscrivent, clac, 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 et le groupe démarre. Et je peux vous le dire, c'est tout à fait faisable. En 3 soirées, juste la découverte, voir comment on est faite, comment on met un diaphragme, comment on vérifie s'il est bien mis, c'est pas sorcier, on y arrive. En 3 soirées, on y arrive. Et c'est une méthode passionnante, si vous voulez, pour des femmes dans toutes sortes d'endroits, ici inclus, parce que c'est une méthode qui est dans les mains de la femme. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre avec son mari qui arrive saoul le soir, d'essayer de le convaincre à mettre un préservatif, elles peuvent mettre un diaphragme elles-mêmes. Donc il y a une part d'autonomie, si vous voulez, dans cette méthode qui est quand même intéressante et qui a les mêmes avantages que les autres méthodes douces, donc pas d'hormones... Après, les autres méthodes, elles ont d'autres avantages, évidemment, comme toujours. Hein. Il y a toujours une pesée d'intérêt. Voilà, c'est pour donner des exemples, si vous voulez, de ce qui est possible. En Inde, j'ai fait un autre projet avec 6 groupes de femmes différentes en zone rurale, où il était question de former des groupes self-help, d'abord, avec des groupes préexistants, évidemment. Hein. Des groupes qui travaillent dans le domaine du développement, de la santé, de l'éducation, des groupes comme ça, qui identifient quelques leaders populaires qu'elles pensent potentiellement intéressées, on les réunit, on fait un petit groupe self-help, alors voilà, on s'asseye tout ensemble, puis chacune raconte à tour de rôle ses premières règles, les maladies qu'elle a eues, celles qu'elle a réussi à résoudre, celles qu'elle n'a toujours pas résolues, qui lui posent encore problème aujourd'hui, puis on fait la liste ensemble de qu'est-ce qui est le plus prévalent. Et on se rend compte assez rapidement que ce qui est prévalent, c'est beaucoup de choses gynécologiques pour lesquelles elle consulte pratiquement jamais, avec quelques autres choses, genre douleurs articulaires, toutes sortes de petits symptômes comme ça qui gâtent la vie des femmes, mais pour lesquels elles ne considèrent jamais que c'est quelque chose de suffisamment grave pour consulter. Déjà que consulter, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de soins dans le bled, donc il faudrait perdre une journée de travail pour prendre un bus pour aller dans un autre endroit. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Alors, on établit la liste de ces pathologies les plus communes pour lesquelles elles n'ont pratiquement pas d'aide, et on part enquêter dans le coin auprès de soignants ou de soignantes et on leur demande quels sont vos remèdes que vous connaissez pour ces pathologies les plus communes. Remèdes simples à base de plantes, maximum 3 plantes. Donc ce n'est pas la médecine ayurvédique, c'est vraiment beaucoup plus simple comme chose. Et puis au bout d'un moment, elles ramènent toutes les données, on rentre toutes les données, donc on s'est retrouvés avec des centaines de données. Après, on les compare à la littérature pour voir si ça colle. Qu'est-ce qui est vraisemblable? On trouve une grande quantité de recettes qui correspondent tout à fait à la littérature. Après, on trouve une grande quantité de recettes qui ne sont pas dans la littérature, mais qui sont plausibles. Ça veut dire que les propriétés, ça collerait, mais ce n'est pas dans la littérature qu'on peut les employer de la sorte. Puis, très, très peu de recettes qui étaient franchement nuisibles à écarter. Je crois qu'il y en avait 14 sur plus de 1000. Alors, dans le genre, il y en avait une qui était délicieuse. C'était, pour l'insomnie, il fallait courir après les hirondelles femelles pour attraper leurs excréments pour préparer un remède. Bon, alors après, vous êtes tellement fatigué que vous dormez, vous voyez. Donc, mais sinon, la plupart des recettes étaient vraiment très intéressantes. Donc, après, on a fait une première série d'essais. On leur fait essayer les plantes qu'on sait que c'est des recettes qui collent et qui correspondent à la littérature, donc on les fait essayer ça pendant un certain nombre de mois, dans leur village, auprès de leurs femmes qui sont proches d'elles. Alors évidemment, elles reviennent très contentes parce que ça a marché. Et puis donc les femmes gagnent de la confiance en elles également parce que ça a marché. Puis après, dans un deuxième temps, on leur fait essayer des plantes qui ne sont pas dans la littérature, ou du moins cette propriété ou cet usage n'était pas dans la littérature. Et là, on en profite en même temps pour apprendre des choses, pour essayer d'élargir un peu notre connaissance, si vous voulez, de ce qu'on peut faire. Et suite à tout ça, on a fait une publication, d'abord en anglais, puis après dans les langues, hindi, telugu, gujarati, etc. Et donc, il y a des femmes qui sont devenues gynéco aux pieds nus, qui sont capables de récolter des plantes, éventuellement de les faire pousser, de soigner des femmes autour d'elles, éventuellement d'en avoir un petit revenu également. Pour vous donner un exemple, on avait dans une des régions, en Andhra Pradesh, zone rurale, assez loin de Hyderabad, un petit groupe comme ça. Il y avait une des dames, c'était une veuve avec deux enfants. Et vous savez, quand on est veuve, on ne peut plus espérer grand-chose dans cette société. Hein. Donc, en fait, elle était très maigre, elle avait des règles trop abondantes, elle avait une mauvaise vision nocturne, elle avait des maux de dos, elle avait beaucoup de troubles qui étaient liés vraisemblablement à de l'anémie. Et les règles abondantes entretenaient l'anémie, et vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment, si elle va chez le petit infirmier du coin qui a un espèce de consultorio, je ne sais pas quoi, là, il va lui donner du fer. Il va lui donner quelques comprimés de fer. Vous savez, là-bas, on prend les comprimés à l'unité, vous voyez, comme ça, clac, clac, clac. Alors, il va lui donner quelques comprimés de fer, elle va ramener ça à la maison, elle va le prendre. Le problème, c'est que ça va la constiper totale. Donc, elle va arrêter, parce qu'elle va dire, non, ce truc, c'est pire qu'avant. En plus, je suis constipée, donc raté, encore raté, caramba. Parce qu'en fait, il n'y a aucun lien pour elle, si vous voulez, entre ce comprimé de fer et les symptômes qu'elle a. Alors, nous, c'est une autre méthode. On va essayer de voir si on ne peut pas améliorer son alimentation, trouver une solution pour qu'il y ait cet apport dans son alimentation. Donc, elle a un espèce de petit jardinet devant sa maison. Seulement, son beau-frère qui habite à côté, il n'irrigue jamais son côté. Donc, son jardin, il est très bien irrigué, puis il a tout qui pousse très bien, puis chez elle, c'est tout sec. Alors, on vient, puis on s'asseye tous les jours à 4 heures chez elle pour voir le thé. Chai-chai-e. Et pendant ce temps, on en profite pour arroser le terrain. Alors, le beau-frère, il ne peut rien dire, parce qu'il y a 4 nanas sur la terrasse, là, donc... il ne va quand même pas dire, mais non, tu ne peux pas arroser ton terrain, quoi. Donc, on arrose son terrain, et puis on fait pousser des feuilles vert foncé. Je ne vous dis pas les noms, mais c'est des feuilles vert foncé qui sont justement riches en fer et en toutes les petites vitamines qu'il faut pour pouvoir bien fixer le fer, etc., etc. Et puis, on ajoute ça à son dal. Le dal, c'est un plat de lentilles assez liquide. Donc, si on ajoute ces feuilles dans le dal, ben, rien que ça, petit à petit, ça diminue son anémie, le saignement diminue, elle commence à mieux voir la nuit, elle commence à avoir moins mal au dos, et petit à petit, elle se dit, mais après, on peut encore rajouter quelques plantes pour compléter, non, pour régulariser le cycle ou faire un peu des subtilités, mais la base, c'est quand même déjà d'avoir une alimentation un peu plus riche, si vous voulez, et après, elle devient la meilleure personne pour faire la promotion de comment on traite l'anémie dans le village, vous voyez, parce qu'elle, elle l'a vraiment compris, mais au fond d'elle, si vous voulez, au fin fond. Donc, elle devient vraiment une soigneuse populaire formidable. Mais ça, c'est avec la force du groupe. Toute seule, ça n'aurait pas marché, évidemment. Elle a vécu une expérience avec les autres, donc voilà. C'est, voilà, pour donner un exemple du type de situation, donc, ma thèse, si vous voulez, c'est que le mouvement self-help, ça peut être quelque chose de révolutionnaire. Parce que si on est trop pétri de problèmes de santé, ou si on est trop pétri de problèmes de survie, on ne peut pas être un agent social pour faire la révolution, quote unquote. Parce qu'on est trop pris dans sa précarité. Il faut quand même qu'on ait déjà résolu un petit bout et qu'on ait déjà vu que ça marche pour qu'on ose éventuellement reproduire ça sur quelque chose d'autre, voire quelque chose de plus social, n'est-ce pas, qu'on mènerait à plusieurs. Il faut qu'on ait déjà senti que la possibilité existe et qu'on ait senti la force du groupe pour oser imaginer de le faire sur un problème plus large. Alors pour nous, pour ma génération, c'était le droit à l'avortement et l'accès à la contraception. Pour nous, c'était ça quoi, qui était notre morceau de pain, si j'ose dire. Hein. Donc dans les années 70, on a, à part ces petits groupes self-help dont je vous parlais, on avait aussi des luttes. Il y avait des luttes genre manif, chez nous en Suisse, initiative, vous savez, récolter des signatures, puis obliger le peuple à voter, etc., etc. Mais il y avait aussi des luttes du type, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il y a quelques têtes grises qui s'en souviendront peut-être, le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. 50 groupes en France qui font des avortements clandestins. D'accord. Mon groupe à Annecy, pas de médicaux. Moi, j'étais élève infirmière en deuxième année. Et l'autre, il était enseignant. C'était des Lyonnais qui nous avaient formés. On n'avait pas de médicaux parmi nous. On avait un groupe qui s'appelait Choisir, qui recevait les femmes pendant toute la semaine et qui regardait qui on peut envoyer où, selon qu'elles avaient déjà eu des enfants ou pas eu des enfants, leur situation économique. Donc il y en avait qui partaient sur la Suisse, il y en avait qui partaient sur la Hollande, puis il y en avait qu'on allait garder sur place. Et celles qu'on gardait sur place, bon, voilà, on arrivait le samedi matin, on allait au local de Choisir, et puis voilà, il y a une voiture qui partait devant, c'est la dame qui allait accueillir chez elle pour son avortement, plus 6 autres. Alors, les 6 autres voitures, puis derrière la voiture des Suissesses avec le matériel, et puis on allait se parquer chez elle, voilà, on s'installait chez elle, la table de la cuisine, cool, Raoul, et on faisait 6 avortements, 8 avortements cette journée-là. Pas lucratif, hein, chacune donne la somme qu'elle veut bien pour faire fonctionner toute l'affaire. Et quand il y a 50 groupes qui font ça à travers la France, ben, je vais vous dire, la loi, elle ne tient plus. Hein. Elle ne tient juste plus. Après, il y a eu, bien sûr, les grands procès dont vous avez peut-être entendu parler. Halimi, qui a défendu la cause de 3 femmes, dont une mère qui avait aidé une jeune femme à avorter, puis elles étaient toutes poursuivies, la jeune femme comme les adultes. Et puis elle a réussi à plaider que qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre ? Je veux dire, l'avortement, il est illégal. Alors, je veux dire, de nouveau, ce n'était pas lucratif, c'était pas, elle n'a pas été contrainte, vous voyez ? Donc, ça, c'est des procès comme ça qui ont fait un foin formidable et qui ont fait que la loi a changé. Donc, en France, c'était en 75, la Belgique, vous me raconterez par la suite à quel moment ça s'est passé. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même des expériences incroyables. C'est qu'une génération réussisse à changer pareillement les rapports sociaux, donc par l'accès à la contraception, mais aussi la relation à la sexualité qui a complètement changé. Je veux dire, à la période de mai 68, on était, si on n'avait pas envie de s'envoyer en l'air tout le temps et de trouver ça formidable, on était des mal baisés ou des frigides, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'eux, ils étaient absolument sûrs que voilà, que, vous comprenez, parce que Reich nous avait expliqué ça, n'est-ce pas ? Que la révolution, n'est-ce pas ? C'est ne pas renoncer à ses désirs et puis les vivre ouvertement. Puis là, il y a eu un clash, si vous voulez, entre les jeunes 68-ards et puis les nanas du MLF qui disaient « mais ta libération, c'est pas la mienne, Coco. Reprenons à zéro. » Donc, il y a eu des changements extrêmement importants, dont toute une génération a bien profité d'ailleurs. C'est la génération bof qui suit celle-là et qui s'est dit « ça va bien, maintenant c'est gagné. Il y a l'égalité des droits, il y a le droit à l'avortement, ça va faire. » Ça va marcher. En plus, c'était une période qui allait économiquement assez bien, donc on pouvait en effet croire que ça allait faire. Seulement maintenant, il y a encore une génération qui a passé, et puis je me tourne vers les plus jeunes. Ben, vous savez très bien que ça ne va pas faire, quoi. Je veux dire, vous savez très bien que l'égalité, on ne l'a pas. Vous savez très bien que maintenant, dans une situation économique plus difficile, ça se raidit méchamment. Et puis, vous savez très bien que l'extrême droite, et puis que les catholiques intégristes... qui s'entendent d'ailleurs très bien avec les autres intégristes, hein, les musulmans intégristes et les juifs intégristes, alors normalement ils devraient s'entendre comme chien et chat sur ces questions-là, ils sont enchantés d'être d'accord. Ils n'ont qu'une envie, c'est de nous faire revenir en arrière sur ces droits, évidemment, et ils n'arrêtent pas d'essayer. Donc en Suisse, l'année passée, c'était de couper le remboursement de l'IVG, l'année prochaine, ce sera arrêter l'éducation sexuelle à l'école pour la rendre aux familles. Quelle géniale idée, hein. C'est vraiment top, hein. Top du top, hein. Voilà, donc ils n'arrêtent pas d'essayer par tous les bouts qu'ils peuvent. Vous avez vu l'Espagne. L'Espagne a essayé de reculer par rapport au droit à l'avortement, par le Rajoy. Il était poussé par son extrême droite. Il pensait que c'était extrêmement intelligent de faire cette suggestion. Il y a eu une mobilisation massive en Espagne, même en Europe, si vous voulez, vraiment une mobilisation massive. Finalement, son extrême droite l'a quitté. Et finalement, les libéraux lui ont dit « Non, mais attends, on va tout perdre si tu continues comme ça. » Et lui, qui avait toujours juré qu'il ne reviendrait pas en arrière, il est revenu en arrière. Mais quand même pour dire que l'ambiance, elle est pas si simple et pas si bonne. Donc ça signifie que pour toute une génération, vous savez que c'est pas gagné, vous savez qu'il va falloir se bouger à nouveau, que les droits, ils sont jamais acquis, malheureusement, qu'on peut pas s'asseoir dessus, et que donc, il va falloir rejouer un certain nombre de partitions, là. Donc la nouvelle génération, moi je l'adore, parce que c'est celle qui a compris qu'il va falloir lutter. Et c'est intéressant parce qu'on voit la même chose dans le mouvement écologiste. Donc, dans le mouvement écologiste, il y a eu la période Malville, vous savez, la centrale nucléaire en France. Hein, de nouveau, c'est un peu les mêmes années, hein, c'est 75 par là. Des grandes luttes, des grandes mobilisations, quelque chose quand même assez important. Puis après, il y a de nouveau une génération creuse, comme ça, où on se dit, ouais, ben bon, c'est bon, ça y est, il y a trois... Hein ? Il y a quelques... un peu d'énergie solaire sur les toits, et puis quelques oiseaux, là... qui gesticule dans le ciel, ça va faire. Et puis de nouveau, une génération qui se dit « Mais non, ça ne fait pas du tout !» Ça ne fait pas du tout. Et c'est intéressant parce que dans ces deux mouvements, on voit des 68 arts attardés et des jeunes qui se remettent ensemble. Donc c'est quand même intéressant ce qui est en train de se passer. Et j'espère ardemment qu'il y aura un nouveau mouvement social suffisamment puissant avant que je disparaisse. Parce que moi, je vous accompagnerai. Alors j'ai dit « Oui, on va y aller !» Alors là, ça commence à frémir, hein. Ça commence à frémir, c'est encore un peu difficile, mais il y a bien des chances qu'il se passe encore quelque chose. Et pour ce qui concerne la relation au corps, la relation à la maladie, le processus de guérison, pour moi, vraiment, l'approche self-help, c'est une clé formidable. Et comme il me reste encore un peu de temps, je vais prendre un ou deux exemples, si vous voulez, et puis après, on reprendra à travers vos questions et ce dont vous avez envie de parler. Alors, mon premier exemple, ce sera le fibrome. Alors, le fibrome, c'est une tumeur bénigne de l'utérus. Donc, c'est le muscle qui se met à trop grandir et puis à trop durcir et sa fibre devient plus rigide. Hein, donc, ça veut dire qu'il contracte moins bien. Donc, quand il y a les règles, il y a la muqueuse qui se décolle. Et puis, comme l'utérus il est un peu fibrosé, ça contracte moins bien, donc ça coule plus. Donc, les règles augmentent en abondance. La première chose que les femmes, en général, remarquent, c'est pas forcément plus douloureux, mais c'est plus abondant. D'accord ? C'est pas une pathologie très grave, mais malheureusement, tant qu'on n'est pas ménopausé, ça peut continuer. Et puis, il n'y a pas de traitement médical en médecine moderne occidentale. Bon, ils ont bien essayé la progestérone, mais ça ne marche pas. Alors, il n'y a qu'un traitement chirurgical. Ça signifie que plus il y a de chirurgiens par habitant, plus il y a d'utérus qui disparaissent. C'est pas compliqué, hein. Ça s'appelle l'hystérectomie. Hein. Donc, s'il y a peu de chirurgiens, on va opérer que les dames pour qui c'est vraiment indispensable. Puis on se dit, les autres, on va essayer de gagner du temps jusqu'à la ménopause, puis l'un dans l'autre, ça va s'arranger tout seul. S'il y a beaucoup de chirurgiens par habitant, elles vont toutes être opérées. Alors, il y a un sociologue tessinois, en Suisse, qui a fait un tout ménage, donc c'est un petit papier qu'on distribue dans les boîtes aux lettres, qui dit, si on vous propose une opération de amygdale, vésicule biliaire, appendicectomie, hystérectomie, ménisque, demandez un deuxième avis. Et rien qu'en faisant ça, il a fait baisser de 25% la fréquence des hystérectomies dans son canton. C'est quand même génial, non ? Ça veut dire qu'il y en avait au moins une sur quatre qui n'était pas une bonne indication. Qui était simplement que le gynéco, il se disait, elle a un fibrome, si ce n'est pas moi qui l'opère, ce sera un autre qui l'opérera dans 5 ans, autant que ce soit moi, et puis que je me construise ma piscine un peu plus vite. Tant qu'à faire. Donc voilà, ça c'est le contexte, c'est tout ce qu'on a en médecine de manière occidentale, on n'a rien d'autre. C'est où on attend, en espérant que la ménopause vienne le plus vite possible, où on opère. Et puis, comme malheureusement ces pathologies maintenant, elles commencent de plus en plus jeunes, parfois attendre la ménopause, ça risque de faire un peu long, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en naturopathie, on a des traitements. C'est quand même intéressant. Alors, c'est un traitement un peu complexe. Je vais quand même vous en donner 2-3 lignes pour vous donner une idée. On a d'abord des plantes qui servent de régulateurs hormonaux. Donc, en fait, quand on a un fibrome, souvent, on a trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. Hein ? Donc, l'œstrogène, c'est l'hormone qui dit sein, grossissez, muqueuse à l'intérieur de l'utérus croît, utérus croît. Hein, et puis le 14e jour, ou le 12e, il y a la progestérone qui devrait arriver, qui devrait dire « Oh là, on se calme, pas trop, pas trop. Hein, » Il y a toujours deux hormones qui disent des choses contradictoires, et il faut qu'elles soient les deux équilibrées pour que le cycle se déroule normalement. Donc là, on a souvent trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, et donc tout le mois, il y a ce message « utérus muqueuse croît », il n'y a jamais l'autre message qui vient pour dire « Oh là, oh, pas trop, pas trop ». N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est le premier contexte. Donc, la progestérone synthétique, ça ne marche pas. Mais par contre, des plantes, si vous voulez, qui imitent la progestérone, ça peut marcher, à condition de, en même temps, changer l'alimentation, perdre un petit peu de poids, Ah oui, ça, la naturopathie, c'est chiant, hein, je suis désolée de vous le dire. Perdre un petit peu de poids, soulager le foie, parce que le foie, il élimine les hormones au fur et à mesure. Hein, donc il élimine l'alcool, il élimine tout ce qu'on ne peut pas uriner, transpirer, respirer, hein, tout ce qui passe par là et qu'on ne sait pas comment éliminer autrement, c'est le foie qui est censé le faire. Donc, il a du mal à éliminer les hormones au fur et à mesure, donc le taux d'œstrogène augmente encore dans le sang. Et à la fin du mois, ou à la fin du cycle plutôt, on s'auto-intoxique avec nos propres hormones. Donc, on se retrouve avec les seins très tendus, l'abdomen gonflé, de la rétention d'eau, etc., etc. Et bien sûr, c'est un ordre pour l'utérus de continuer à croître, n'est-ce pas ? Donc, régulateurs hormonaux, tonifier le foie, changer un peu l'alimentation, améliorer un petit peu la circulation d'énergie dans le petit bassin, hein, faire qu'il n'y ait pas de la stagnation là. Et si on a un peu de patience, en quelques mois, on peut voir le saignement diminuer. On peut mettre encore de l'argile éventuellement pour essayer de drainer un peu s'il n'y a pas 10 cm d'adipeux par-dessus. Et en quelques mois, on peut voir une amélioration. Alors, c'est lent et c'est laborieux, mais ça marche. Donc, si vous voulez, toute l'idée d'une naturopathie comme ça, sous cette forme de femme à femme, qu'on pourrait se communiquer, qu'on pourrait apprendre à faire ensemble, c'est d'essayer de s'occuper de ces phénomènes le plus tôt possible, pas attendre que ce soit la cata. Donc si vous voulez, si on arrive déjà à traiter des règles trop abondantes, bah, peut-être on va éviter un fibrome. Si on arrive à traiter des kystes du sein, peut-être qu'on va éviter une complication par la suite, voyez, parce que les choses ne viennent pas comme ça out of the blue. Il y a eu des années avant. C'est pareil par rapport à l'immunité cellulaire, si vous voulez, par rapport au sida, si je puis me faire une petite parenthèse. On a peu retenu le fait que parmi les premiers qui ont été atteints du sida, c'était souvent des gars qui avaient déjà eu plein d'infections avant. Ils s'étaient déjà payés des blénos, des machins, des trucs, ils avaient traité tout ça avec des antibiotiques, ils pensaient que tout allait bien, merci, parce que c'était traitable. Mais leur immunité, elle descendait, et après c'est la cerise sur le gâteau. Pataplaf. Ah, mais c'est certainement la faute au virus. Donc, dans une approche naturopathique, on essaye de travailler sur tous les facteurs qu'on peut, sur les facteurs hormonaux, les facteurs alimentaires, les facteurs environnementaux, les facteurs émotionnels éventuellement, et faire tout ce qu'on peut, si vous voulez. Il faut jouer sur plusieurs tableaux, et plus on commence tôt, plus on a de chances d'y parvenir. Évidemment, si on commence déjà sur un truc déjà très avancé, on aura moins de chances d'y parvenir. Ça paraît compréhensible pour vous ? Donc voilà, toute l'idée, c'est ça. C'est de ne pas vivre les choses dans l'isolement. Le passage de la ménopause, le choix de son contraceptif, son traitement pour le cancer du sein, est-ce que je sais, moi ? Pas vivre les choses dans l'isolement. Parce que dans l'isolement, on crève de trouille. On va peut-être chez des soignants qui ne nous donnent pas toujours un choix extraordinaire, qui ne nous expliquent peut-être pas toujours ben voilà, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Donc on a souvent des choix qui sont un peu contraints, si vous voulez. On n'a pas vraiment fait le tour de la question. Donc il faudrait en parler dans des groupes, si possible, ou retrouver des sources dans lesquelles toutes les possibilités sont bien évoquées pour être sûr qu'on fait des choix éclairés et qu'on ne les fait pas juste sous influence. Parce qu'on nous dit, mais c'est certainement mieux pour vous, madame. N'est-ce pas ? L'intérêt des groupes, pour prendre un dernier exemple, c'est sur la question de la sexualité. Si vous avez une cystite tous les 3 ans ou une vaginite tous les 2 ans, bon, c'est un peu égal que vous preniez un antibiotique ou que vous preniez un traitement naturopathique, on s'en fout un peu. Dans les deux cas, bon là, ça sera un peu plus rapide, l'autre, ce sera un peu plus lent, mais dans tous les cas, vous vous en sortirez, donc peu importe. Mais si vous êtes chronique, admettons que vous ayez ça plusieurs fois par an, admettons que vous ayez une cystite après chaque règle ou après chaque rapport avec pénétration, ben là, on se rend bien compte que ça ne va plus. Vous ne pouvez pas chaque fois prendre des antibiotiques. Ce n'est pas possible. Vous allez vous déglinguer complètement la flore digestive, vous êtes très fatigué, enfin, il va y avoir plein d'inconvénients. Donc, c'est là qu'un traitement alternatif devient intéressant. Mais l'alternative, ce n'est pas seulement de remplacer les antibiotiques par une huile essentielle, c'est aussi de faire un groupe et d'essayer de discuter, mais pourquoi j'ai ce truc qui se répète tout le temps ? Donc moi, j'ai fait des conférences que sur cette thématique, par exemple, puis à la fin de la soirée, on propose un groupe, puis on demande aux femmes qui sont intéressées de s'inscrire. Et l'intitulé, c'est « Vaginite chronique, cystite chronique, y a-t-il un lien avec la sexualité ?» Point d'interrogation. Et en groupe, comme ça, 6-8 femmes, et on se raconte chacune nos histoires. Mais c'est génial. Parce que la jeune femme. Il y en avait une toute jeune, la plus jeune, elle s'installait en ménage. Et la plus âgée, elle avait 74 ans. Je ne sais pas si vous rendez compte le panache. Donc, d'entendre déjà ce que les autres racontent, c'est déjà terriblement déculpabilisant, parce qu'on se dit, mais c'est quand même incroyable. Elle est prof, et puis elle est comme moi, elle a aussi ça. Oh, mais c'est dingue! Donc, je ne suis pas la seule cloche. Déjà, rien que le partage, c'est terriblement déculpabilisant, c'est vraiment génial. Et pour vous prendre un dernier exemple, la plus jeune du groupe. La plus jeune du groupe qui est en train de s'installer en ménage avec son Jules. Elle est sûre que c'est le bon mec au bon endroit, elle l'aime, c'est formidable. N'empêche qu'elle a quand même des cystites après les rapports avec pénétration, donc c'est peut-être pas si formidable. Alors, on lui demande de raconter sa première cystite, parce que c'est celle-là qui était la plus importante. Alors, elle raconte sa première cystite au groupe. Sa première cystite, elle vivait seule avec sa maman et le père avait disparu, donc elle ne l'a pratiquement jamais connu. Donc elle ne sait pas ce que c'est que d'avoir une présence masculine à la maison. Donc elle vivait dans un truc très cocooning, comme ça, vraiment formidable. Seulement voilà, sa maman a un amant. Et voilà qu'un jour, l'amant emménage à la maison. Alors elle est un peu intéressée par tout ça, mais elle est un peu effrayée, vous voyez. Et puis le soir, elle va coller son oreille à la porte de la chambre à coucher, puis elle entend des espèces de cris, puis elle se dit « Oh mais mon Dieu, mais est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle est contente? Mais c'est quoi ce truc? Mais quelle horreur !» Puis elle repart dans sa chambre. Panique à bord. Et ça, c'est un contexte particulièrement excellent pour une cystite. Excusez le terme, et c'est là qu'elle a cette première cystite. Donc elle est dans notre langage, si vous voulez, vous m'excuserez hein, ce type de langage, mais elle a peur et elle est envahie dans son territoire. D'accord ? Et les vaginites, c'est un peu pareil, c'est envahie dans son territoire et culpabilité. Donc la femme qui se culpabilise, hein, ne pas vouloir avec des rapports avec pénétration, le lendemain, elle a une mycose flambante, c'est génial, hein, elle n'aura pas de rapport avec pénétration. Donc si vous voulez... Si on ne peut pas discuter de ces choses dans les détails, on n'y arrivera jamais. Donc si on va chez le gynéco, bon ben voilà, on dit, ah ben voilà, j'ai une mycose, ben voilà, j'ai de nouveau une cystite. Bon, à la fin, on ne va même plus chez le gynéco, ça se passe par téléphone. On appelle la secrétaire, on dit, bon ben voilà, j'ai de nouveau une mycose. Bon, voilà, il envoie une ordonnance par la poste d'un antifongique ou d'emploi l'antifongique. Si on ne parle jamais de rien, on n'y arrivera pas. Et donc, qui va aller dire à son gynéco, non, vous voyez, ces liens éventuels avec la sexualité, avec la peur, avec la culpabilité, ces choses, ça ne va pas sortir si facilement. Et puis même dans une consultation comme ça, en tête à tête, ça va prendre beaucoup de temps pour ressortir. Parce que si j'emploie ce vocabulaire, je lui donne déjà des idées, donc c'est déjà faussé. Donc au début, elle va se défendre, elle va me dire « mais non, mon couple, il est très bien, mon Jules, je suis sûre que c'est la bonne personne au bon endroit, je l'aime, et c'est sans doute vrai. » Simplement, elle ne réalise pas que ça fait un effet mémoire par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était petite, et puis que cet homme est entré dans la maison. Et puis que chaque fois qu'il y a un effet, chaque fois qu'on réveille cette mémoire, si vous voulez, ça fait repartir le phénomène. Et ça, c'est des choses pour le comprendre. C'est tellement mieux dans un groupe parce qu'on est à égalité à l'intérieur du groupe, donc on peut plus facilement s'identifier aux autres et voir comment ça se passe pour les autres. Et comprendre comment ça se passe pour nous-mêmes. Eh bien, cette jeune nana qui s'installe en ménage, en trois séances, elle n'a plus eu de cystalgie. Elle avait tout le temps des cystalgies. Donc, une espèce de vessie qui fait tout le temps squeak, squeak, squeak. Donc, ça lui faisait tout le temps mal, si vous voulez. Et puis, de là, évidemment, faire une cystite, c'était assez facile. Rien qu'en en parlant, sans remède homéopathique, sans cantharis, sans pilocèle, elle n'avait déjà plus de cystalgie. C'est quand même génial. Bon, elle est relativement jeune. Si c'est une femme plus âgée, ce serait peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y a un petit peu plus de strates sur la mémoire. Mais quand même, c'est déjà extraordinaire, si vous voulez. Et à l'intérieur du groupe, elle peut poser des questions du genre « Mais tu fais comment quand tu ne veux pas faire l'amour ? Vous faites comment ? Vous faites chambre à part ? Vous dites mal à la tête ? Comment ?» C'est des discussions, mais on les a avec qui ? Avec qui ? Avec ses parents, on ne peut bien sûr pas les avoir. Avec les copines, c'est très difficile aussi, parce qu'on fait tout semblant que ça se passe mieux dans le meilleur du monde, évidemment, donc on ne va pas lui dire que pas du tout, n'est-ce pas ? Donc, c'est très compliqué. Tandis que dans un groupe comme ça, il y a cette neutralité, cette confiance, c'est des personnes qu'on ne reverra plus jamais dans la vie après. Donc, on peut aller assez au fond des choses, en confiance, si vous voulez. Donc, c'est absolument génial. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais terminer avant de passer à vos questions. C'est ce que je vous souhaite pour tous les problèmes de la même manière, que ce soit pour votre ménopause, que ce soit pour n'importe quoi, ne pas le vivre dans l'isolement. Essayer d'en discuter avec d'autres pour les traitements, bien entendu, mais aussi pour le vécu, aussi pour ce qui se passe autour, et pour essayer de comprendre cette globalité de ce qui nous arrive, quoi. D'accord. Avec mon spéculum, je suis forte.
Vous venez d'écouter la première partie de la conférence donnée par Rina Nissim à l'invitation de l'ASBL CEFA, enregistrée à Louvain-la-Neuve le 9 mars 2016.